Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Footpod. Je suis Nico et avec moi il y a Yann. Bonsoir.
Bonjour Nico, bonjour tout le monde.
Voilà. Et donc comme les phases de poule, les groupes, c'est terminé, ben on s'attaque, comme on dirait les Américains, au Round of 16.
Des Mais c'est ça, pourquoi les Anglo-Saxons, ils peuvent pas appeler ça Eights of Finale, comme tout le monde? Alors c'est peut-être nous qui sommes particuliers en appelant ça les huitièmes de finale, parce que comme il y a 8 matchs, ça divise la finale en 8.
Oui, alors que là, c'est Round of 16, parce qu'il y a 16 équipes, quoi.
Round. Mais ils disent pas Round of 2 pour la finale?
Non, mais...
Nous, au moins, on est logique, tu vois, on fait 16, à Roland-Garros, t'as les 64e de finale, les 32e de finale, enfin, tu vois, c'est...
Oui, les 128e de finale, des fois aussi, ça fait bizarre. Mais c'est comme ça, monsieur, c'est comme ça. Donc, les 8e de finale sous-entendent, donc, il y a 8 matchs, le Round of 16.
Alors il y a, bah, oui, y a, y a 16 que la, disons-le très clairement, il y a que la LFP pour faire 8, 16e de finale parce que les 6 autres sont qualifiés automatiquement.
Ouais. Ouais. Et pour info, les Américains disent juste round of 16 puis après quarter finals.
Oui, après c'est quarter finals. Voilà.
Third place playoff. Voilà. Mais ils disent pas le match pour la 3e place, ils disent le playoff pour la 3e place. Le playoff. Mais... Voilà, c'est. Bah, c'est les Américains, quoi. Hein.
Et ils commandent sur Fox Sports.
C'est pas les phases à élimination directe, c'est les knockout stages.
Oh yeah, knockout stages.
Ouais. C'est-à-dire la scène où ils sont KO. Bref, donc alors, le premier match a eu lieu, enfin le 50e match de cette Coupe du Monde a eu lieu...
Non, 49e.
Non, le 50e.
Non.
Ah bah écoute, c'est écrit match 50, monsieur. Ah,
ah oui, parce que le 49, ça devait être l'Uruguay le soir, là.
Oui, exactement.
Ouais, ouais, d'accord. Donc ok, c'est le 50 pour la FIFA, mais 49 dans l'ordre.
Voilà, et donc nous, bah oui, puisque c'est donc le premier groupe C contre le deuxième groupe D, donc France versus Argentina, yeah, à la Kazan Arena de Kazan.
Et puis, à la Casa Argentina pour Messi, surtout.
Donc, un partout à la mi-temps.
Tiens, elle était presque drôle celle-là.
Un partout à la mi-temps, 4-3 à la fin du match. Avec un but de Grisou sur penalty, de Jeff Touch sur une reprise à la Olivier Tom.
Et pourquoi cet accent anglais d'un coup, là, ou américain?
Parce que c'est le round of 16!
Ah, d'accord.
Yeah! Non, mais, désolé, c'est le Fox Effect, quoi. Mais, donc, doublé de Mbappé. Ça marche pas. Il y a une syllabe de trop. C'est Mbappé. Bref, tu peux pas connaître, tu n'étais pas né.
Comme le poisson.
Non mais ça va, tu l'as fait au moins 3 fois par an celle-là.
Oui.
Et de
plus
l'autre
trop depuis que je ne fais plus que le football.
Et de l'autre côté, on a été sympa, on a laissé Di Maria être bien seul face à l'axe du but, prendre son temps pour bien placer sa balle, prendre sa course d'élan et frapper.
Et marquer, non, du coup.
Non, parce que... Mercado a marqué le deuxième but juste après la reprise. On était mené de 1. Nous paniquions. Et là, l'éclair est venu d'un centre totalement foiré de Hernandez que tout le monde rate, sauf Benjamin Pavard, qui te met une reprise, qui déchire les filets.
Non, mais la reprise, elle est belle, hein.
Ah ouais, non, mais avec un...
Non, mais on est d'accord. C'est un foirage qui finit très bien. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais la reprise, elle est magnifique.
Oui, la reprise est magnifique, et puis c'est vrai que, pour le coup, pour une fois, Internet a bien senti le truc en comparant ça aux frappes à la Olivier Tom, quoi, je veux dire, avec la balle qui tourne sur elle-même et tout, il y avait vraiment ce côté-là, c'était beau. Et après, donc, Kylian, il nous met un beau crochet, bon, il n'y a pas eu la passe, mais il y a eu le crochet, et on a marqué. Tin, holy... Non mais voilà, c'est et ouais, parce que c'était quand même à la sortie d'un beau gros cafouillage, et mais respect quoi, parce que il faut y penser à faire ce crochet pour Et je pense que 90% des joueurs auraient tapé comme un bourrin, sans le chercher à comprendre. Et, lui, et il met le crochet et derrière, il met la frappe et c'est joli.
Et on l'a nous beaucoup critiqué aussi en début de mondial. Je pense notamment au match face à l'Australie ou à celui face au.
Ah bah il était mauvais, hein, soyons clairs.
Pérou. Mais là, il était pas mauvais sur ce coup-là.
Ah non, il a fait un très bon match. Après, voilà, les journalistes, bien sûr, hein, derrière, ils se sont enflammés, qu'il méritait 10 sur 10 et tout. Faut quand même pas exagérer. Il y a quand même eu un paquet de moments où il a disparu de la circulation.
Mais... L'équipe lui a mis 10?
Non, 9.
Ils ont quand même. Le 9 est pas volé. Le 9 est pas volé.
Ça fait quand même beaucoup, ça reste qu'un 8ème. Bon, mais après, c'est vrai qu'il a énormément apporté dans le sens où il te met un sprint de l'improbable de 80 mètres et puis qui finit en pénalty. Il te met deux superbes buts parce que bah, son deuxième but, il y a belle remise, beau décalage et belle frappe. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais enfin, ça faisait plaisir, c'est qu'on a retrouvé le Mbappé de Monaco, en fait. Celui qui joue collectif, celui qui, quand on le frôle, ne tombe pas à essayer de concurrencer Neymar pour se rouler par terre. C'était agréable, voilà. C'est ce qu'on attend de lui. Et en plus, il a même participé au repli défensif. Donc, voilà. C'est quand même pas compliqué. Fais ça tout le temps.
Et s'il fait des matchs comme ça tout le temps, il est hors norme, Mbappé.
Voilà. Bah après, bon, on va dire oui, il a 19 ans et tout ça. Mais on le vend tellement sa maturité pour 19 ans que, ben, ouais, il faudrait pas lui expliquer 36 fois la même chose.
On le faisait pas d'un certain Léo Messi, Coupe du Monde 2006?
Honnêtement,
je sais pas toi, mais moi, la Coupe du Monde 2030, je la sens pas du tout.
la 2006, j'en avais rien à trouver puisque c'était Zidane qui était le maître du monde à cette époque-là. Donc, non, mais voilà, après, il faut aussi relativiser. L'Argentine a été transparente, quoi. Ça n'a pas été. Franchement, on l'a remis constamment dans le cours du jeu. Pourquoi Di Maria, il est absolument tout seul, avec personne dans un rayon de 10 mètres autour de lui? Tu sais pas. Du coup, après, derrière, il met une superbe frappe, là, il n'y a rien à redire. Le but de Mercado, ben, c'est Pavard qui s'est. Enfin, tu sens qu'il a le réflexe du défenseur central. Il se dit, merde, je suis latéral. Ah oui, mais j'ai deux jours à couvrir. Qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, tu vois, cette demi-seconde qui fait qu'il bouge pas, et ben, bah, ça laisse Mercado en jeu.
Ouais,
et il marque. Donc, voilà. Bon, après, Agüero, bon, je pense que dans l'esprit, les Français, ils étaient déjà, tournés vers le quart de finale. Mais après, il y a rien à redire. Le centre, il est beau. Le
coup. C'est ça aux Japonais qui étaient déjà tournés vers les prolongations.
Le Kun s'arrache bien. Il met une belle tête. Bon, il y a pas de problème.
Du coup, c'est un Kun de tête?
Mais bon, après, c'est vrai que l'Argentine avait quand même cet énorme problème, c'est qu'elle était privée de Léo Messi, hein, pour le huitième.
Ah, il était là?
Bah non, c'est ça le problème. Après, il a bien été couvert dès qu'il redescendait au milieu de terrain pour avoir la balle. Griezmann le prenait au marquage. Dès qu'il était dans la zone, on va dire, 35 mètres, c'était Kanté qui le collait. Dès qu'il passait la barre des 20 mètres, t'avais Umtiti qui lui tombait dessus, quoi. Le plan de marquage du Messi, il a été très bon, quoi. Il a jamais réussi à faire quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, tu le voyais, tu te disais, mais le mec, il a pas envie. Putain, tu joues à 8ème de finale, c'est ta dernière chance d'être champion du monde. Parce que, soyons clairs, il aura 35 ans en 2022.
Non mais il y a qu'à voir, il s'est déjà retiré deux fois de l'équipe d'Argentine.
Voilà, mais même c'est ce qu'on disait déjà dans les phases de poule, quoi. Même avec Barcelone, t'as l'impression que le mec il a plus envie de jouer. Bah arrête, enfin j'ai envie de dire c'est malheureux, mais de toute façon tu peux arrêter, hein. T'as déjà gagné combien, au moins 700 millions, alors à dire tu continues pas à bosser parce que t'es obligé, sinon t'as rien à manger à la fin du mois, quoi. C'est plutôt que d'avoir un joueur comme ça fantomatique alors qu'il a été génial, il a été grandiose, de le voir se traîner comme ça, c'est triste, quoi. C'est vraiment triste.
Et c'est souvent comme ça que ça finit, hein.
Oui, mais lui il a que 31 ans, enfin il est pas censé finir comme ça, il est pas censé finir genre De Sailly en 2004 qui finit sur le banc parce que monsieur a pas voulu arrêter avant l'heure, quoi. Enfin, il a fait la compétition de trop, j'ai envie de dire, en international. Là, c'est pas le cas pour Lionel Messi. Si à 31 ans, t'es plus capable d'être motivé, il y a quand même un gros problème.
Ouais, je vois.
Du coup, bah, ça sera jamais le plus grand joueur du monde, hein, puisque, malheureusement, il n'a pas de titre pour soutenir ça. Il sera pas le plus grand Argentin du monde, parce que, Diego, il en a deux, hein. Diego, il a deux coupes du monde.
Tu parles de doigts qu'il a fait au Nigérian, non?
Voilà. C'est pas Lionel Messi qui ferait des doigts d'honneur à tout ce qui bouge, hein. Et en plus, il fait des crises cardiaques en plein milieu des matchs, hein, monsieur. Enfin, des alertes cardiaques, pardon. Donc, voilà, on passe, j'ai envie de dire presque tranquille, parce que l'équipe de France a quand même dégagé vraiment une belle impression de puissance et... Mais d'un autre côté, c'est quand même plus facile quand t'as pas une équipe qui défend à 10 dans sa surface et qui bouge pas.
Ouais, ce qui va pas être le cas au tour d'après.
Mais si, voyons. Le Portugal est une équipe très joueuse. Ça va être une magnifique revanche de la finale de l'Euro 2016.
C'est quand même très con qu'il soit pas passé.
Ah merde!
Eh non, mais Messi et Cristiano sortis dans la même journée. Gianni veut faire annuler la Coupe du Monde. Là, il est déjà sur tapis vert.
Mais t'arrêtes de reprendre ma blague partout!
Non!
Voilà, doublé de Cavani pour sortir le Portugal, qui avait répliqué par Pep. Et t'as vu un Portugal qui a pourtant essayé hein, de varier son jeu, mais qui arrivait pas. Et la défense uruguayenne, il va vraiment falloir la bouger. Hein. Ça va être très 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 compliqué. Très 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 compliqué. Très 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 compliqué.
On va galérer, hein, parce que Carceres, Jiménez, Godin et Lachalt, c'était bon.
Ouais, et surtout, tu pensais que Neymar était chiant? Attends de voir Suarez. Parce qu'au niveau Jean-Fekinston, je comprends toujours pas qu'il ait encore une tête à ce mec, puisque
tu mets un gros coup dans le tibia. Que ce mec, après avoir mordu deux fois des adversaires, soit encore sur des terrains. Ça, je trouve ça inadmissible.
Mais tu sais que le mec qui a de l'asthme et qui se fait choper continue à faire le Tour de France. Hein, il faut quand même
oui,
pas déconner.
Ça. Non, mais ça aussi je comprends.
Surtout qu'en plus la dernière fois qu'il a ébouffé, il venait de signer à Barcelone, donc il faut pas déconner non plus, hein.
Non, il a signé après.
T'es sûr qu'il n'avait pas signé juste avant la Coupe du Monde et donc il a ébouffé l'autre parce qu'il avait déjà signé. Bon, enfin bon, de toute façon peu importe. Tu savais que même s'il n'avait pas signé, c'était sous-entendu qu'il allait aller là-bas. C'était qu'une question de temps avant qu'il signe. Mais non, mais dans le genre aussi, tu lui mets une grosse tatane en pleine cheville, le mec il se prend la tête à deux mains. C'est systématique, hein. C'est toujours un coup derrière la tête que tu lui mets. Mais il a ce côté extrêmement agaçant. Combien de fois là dans le Portugal tu dis tu peux jouer l'action jusqu'au bout, mais non, il pivote légèrement son corps pour que tu le frôles et il tombe et puis faute. C'est agaçant au possible, c'est encore pire que Neymar parce qu'au moins Neymar tu rigoles quoi, tu fais non mais ça va, calme-toi, arrête. Je veux dire, même les publicitaires, ils se foutent de sa gueule. Je sais pas si tu l'as vu, il y a une pub pour le KFC en Australie, je crois, où tu vois un joueur de foot qui prend une toute petite blessure de rien du tout, tu sais, sur le terrain, et qui se met à faire des roulades à la Neymar et qui roule et qui roule et qui roule et qui sort du stade et qui traverse la ville et tu le vois patienter au feu rouge parce que tu sais, en attendant que le petit bonhomme il soit vert pour traverser, il est là par terre, il s'arrête de rouler, alors il continue à se secouer, puis le bonhomme passe au vert et puis il se met à nouveau à rouler, à traverser le passage piéton et il va jusqu'au KFC. Il arrive devant le comptoir du KFC, il se relève et puis bon ben il commence son KFC. J'étais mort de rire, je suis putain, il devient un même internet quoi, Neymar, tellement c'est ridicule. T'as des tonnes de trucs, mais Suarez, c'est pas mieux, hein, dans le genre, je tombe pour un oui ou je tombe pour un non. J'aurais préféré, tu vois, que ça soit lui qui se blesse au mollet et qui ne joue pas contre la France plutôt que Cavani, parce que Cavani, c'est un superbe joueur. Je comprends vraiment pas qu'il soit pas plus reconnu que ça. Le mec, c'est un buteur très efficace. Il a une capacité athlétique monstrueuse, il fait des replis défensifs constants, enfin, il est parfait, quoi. Si seulement Mbappé pouvait prendre exemple sur lui plutôt que Neymar. Et bon, du coup, il a été blessé au mollet. Au moment où on enregistre, médicalement, il serait pas censé pouvoir jouer, hein. Mais l'Uruguay te fait style, il pourra jouer, peut-être, peut-être pas. Alors qu'à côté de lui, il y a Cavani. Cavani, c'est un joueur, mais magnifique, quoi. C'est un buteur hors norme, et le mec, il bosse comme un taré, quoi. Il fait du repli défensif, il est utile partout. Le nombre de fois où c'est lui qui dégage la balle sur les corners adverses, et tu tapes le sprint, et il a la conclusion de l'action, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Si seulement Kylian Mbappé pouvait prendre exemple sur lui, plutôt que Neymar, au PSG...
Ouais.
Donc ce vendredi 16h, hein, voilà cette belle heure française, cette belle affiche France-Uruguay, qui donc sera au stade Nijni Novgorod, à Nijni Novgorod. et nous n'avons pas les arbitres désignés à ce moment-là, mais par contre, on sait que ça sera sur TF1, hein.
Ah oui, ça.
TF1 diffuse 3 des 4 quarts de finale, et donc celui de la France à 16h, et donc il fallait encore en choisir 2, il y en a 2 à 20h et 1 à 16h. Lequel ils vont bien choisir? Tiens, ils ont pris les 2 à 20h, quelle surprise!
C'est officiel pour le deuxième à 20h,
ah
le
ouais,
samedi?
Ah ouais, c'est celui de samedi, le vendredi et samedi à 20h, et donc le
En même temps, ils auraient tort de se priver, et ça leur permet de faire un après-midi foot 16h, 22h, 23h.
Vendredi?
Le vendredi, ils auraient tort de se priver. Hein.
Bah c'est surtout qu'en termes d'audience, c'est plus rentable le soir que...
Ah bah évidemment, là on s'est coltiné un merveilleux Argentine-Nigeria.
Donc là, ils sont gentils les Français, mais c'est prière d'aller en demi-finale, parce que la demi-finale de la France, elle serait à 20h. Ou de l'Uruguay du coup. Donc mais ça serait quand même sympa pour l'audience, hein, qu'on ait un match de l'équipe des Bleus à 20h, alors qu'on n'en a toujours pas eu.
Mais ça, on n'y peut rien, c'est le calendrier qui veut ça, c'était décidé avant là pour le coup...
Alors donc, du coup, France-Uruguay, toi, tu vois quoi?
France-Uruguay, un petit un partout et quelque chose qui joue aux prolongations au TAB.
Moi, je sens bien les Français y aller tranquille, genre 3-1. Je sais pas pourquoi. Après, voilà, ça dépendra si Cavani est là ou pas, et comment il va gérer l'absence de Matuidi.
Ouais.
Est-ce qu'il met Tolisso, qui sur son seul match a pas été bon? Est-ce qu'il met Lemar, qui est un fantôme casperien depuis 6 mois? Est-ce qu'il change de tactique? Enfin, ou est-ce qu'il ressort Dembélé un joueur, vite, je cours très très vite dessus pour perdre la balle. C'est... Oui, je le fais un peu Homer Simpson, parce qu'il est un peu con comme Homer Simpson. Je sais pas faire Philippe Pétieux, mais c'est pas grave. Tchou. Bah, on va passer à l'équipe préférée de Nadal. Si. Et l'espagnol non plus, je maîtrise pas. Qui jouait contre l'équipe à Vladimir.
Mais c'est quoi ces accents, là?
Et Vladimir, il a dit, vous avez intérêt à battre l'Espagne. Ah bah, du coup, ils ont battu l'Espagne. Sans action.
Moi, je croyais que c'est Gandalf qui a dit aux Espagnols, you shall not pass.
Un partout à la mi-temps, un partout à la fin du match, un partout à la mi-temps des prolongations, un partout à la fin du match, et 3 buts. Pour les Espagnols, 3 tirs au but pour les Espagnols, 4 pour les Russes, voilà. Victoire, Coquet et Aspas, bah Aspas pas bien hein, pour lui, puisqu'il a mis le penalty au-dessus, ou à côté, enfin j'ai plus. Ah non, c'est le pied du gardien de Hakim Fev qui l'a dévié. Et c'était très chiant. Entre une Espagne qui marche au ralenti et des Russes qui avaient décrété « On sort pas des 20 mètres sauf pour mettre une meule sur l'ailier qui dévide la tête vers l'attaquant. » Ils ont fait que ça. Ça a été que ça, le match. Un coup, c'est passé. Hein, il y a plus que... Un Espagnol a fait une faute. Hein, et donc, voilà. D'ailleurs, on remarquera que les Espagnols n'ont pas marqué dans ce match hein, puisque c'est un but contre son camp. Avec je sais pas ce qu'ils ont foutu
très beau plaquage russe quand même hein. Si ça fait oui, pas but ça fait pénalty ben, normalement
enfin Ramos il se laisse quand même très 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 bien tomber aussi hein. Il résiste absolument pas hein, au plaquage hein.
Mais ça me fait tellement plaisir que ce gars là soit dehors sans avoir pris un carton. Ça montre que en fait ça marche pas.
Bah c'est surtout que le football espagnol d'il y a 10 ans ne fonctionne plus quoi. Le tiki-taka c'est tellement bien. Ils prennent l'avantage 1-0 à la 12e. Ils avaient déjà pas commencé à jouer, mais ils ont encore moins joué après. Et ils ont fini mais à plus de 1000 passes quoi. T'es quasiment à une passe espagnole toutes les 5 secondes en moyenne sur le match, en comptant les arrêts de jeu pour soigner les blessures, les faits quand le but, quand la balle, il faut que t'attendes que tu vois, les changements et tout ça. Et pourtant, t'arrives à une moyenne, une passe toutes les 5 secondes, à peu près 5-6 secondes en Espagne. Mais c'est dire à quel point ils ont joué à la papasse et ils se sont fait punir et c'est...
Mais je trouvais que l'Espagne ne pratiquait plus trop le tiki-taka depuis 2 ans avec Lopetegui.
Voilà, il le faisait plus. Il y avait de la variété dans la construction.
Mais le problème, c'est que ils sont revenus dans ce qu'ils connaissent vu qu'ils avaient pas de plan de jeu.
Lopetegui
2 jours avant, il y a pas de plan de jeu.
Et que t'avais bien senti que Ramos avait l'intention d'être le joueur sélectionneur de l'équipe qui décide tout, hein. Ça c'est quand même plus ou moins été sous-entendu que Hierro, il avait pas une poigne tellement Hierro que ça, hein. Bon, c'était moins pire que que l'autre en Argentine qui demande carrément à Messi tu veux que je fasse ça ou pas mais enfin tu sentais que c'était Ramos, voilà, l'Espagne et ben c'était un peu la crise, ils sont revenus aux fondamentaux de l'époque où ils gagnaient tout, sauf que ces fondamentaux là ils fonctionnent plus. C'est une équipe qui s'est fait taper en poule en 2014, qui sortit en 8e à l'Euro 2016, qui ressort en 8e cette année. Voilà, ils ont perdu les joueurs clés comme Xavi et Xavi Alonso, ces joueurs-là qui étaient et là ils sont en train de perdre Iniesta, qui le pauvre, il a 36 ans ou je sais pas, et tu vois qu'il arrive plus à tenir le rythme, hein, il a même pas joué un match complet. Même là sur ce 8e, il était que remplaçant, hein, il rentre en cours de jeu.
Ouais.
Donc voilà, il y a toute une génération à changer. Je pense que là, il est temps de faire le ménage. Bon, bah, ça y est, Iniesta, on savait que c'était sa dernière compétition internationale. Il l'a déclaré officiellement retraite internationale.
Ramos, tu le verras encore en 2020.
Malheureusement, mais Ramos, Piqué, c'est des joueurs qui, à mon avis, bah, doivent céder leur place. Même s'ils sont, c'est pas si vieux que ça. Donc, Ramos, il a quand même 32 ans, hein. Ça lui en fera 34 en 2020, hein. Je veux dire, aujourd'hui, les attaquants modernes sont tellement rapides.
Jouera en 2000.
Yann, tu disais?
Je pense qu'il jouera, moi, en 2000.
Oui, mais il devrait plus. À 34 ans, il sera incapable de suivre les attaquants adverses. Clairement. Et son compère Piqué, il en aura 33. Non. Pour moi, je veux dire, tu vois qu'ils commencent déjà tous les deux à montrer leurs limites, hein. Là, on jouait l'Espagne avec des Kylian Mbappé ou des Antoine Griezmann, on leur mettait la misère, hein, aux Espagnols, hein, parce qu'ils auraient été incapables de nous suivre. Et dans 2 ans, ça sera encore pire. Encore pire. C'est...
Ouais.
Après, voilà, c'est... Mais par contre, enfin voilà, les Russes, on sent bien qu'ils avaient tout misé pour réussir leurs 2 premiers matchs de poule. Le 3e, c'était déjà physiquement compliqué. Et là, déjà, dès la 75e minute de jeu, t'avais déjà 2-3 joueurs russes qui étaient perclus de crampes, hein. Je sais pas, ouais, du tout comment ils feront pour tenir le quart de finale, donc qui se jouera contre l'équipe vainqueur lors du Croatie-Danemark.
Et c'était chiant.
Ah non, t'as eu 5 premières minutes de feu et t'as eu une deuxième mi-temps de prolongation qui était sympa. Et t'as eu 100 minutes entre les deux où t'avais envie de t'ouvrir les veines, hein.
C'est ça. C'était pas la journée, hein.
Le Danemark a joué comme il joue tout le temps, hein, c'est-à-dire tous derrière. Les Croates, ils étaient pas dans un jour de grande aspiration technique. Donc ils ont pas réussi à bouger cette défense danoise. Et puis voilà, t'arrives à la fin. Mais voilà. Mais il y a une forme de dramaturgie à la fin de la prolongation. Avec cette erreur défensive, le Croate qui part en plein axe, qui efface Schmeichel, et le défenseur qui se jette, il sait très bien qu'il va se prendre un rouge, qu'il y aura pénalty, mais sinon, le Croate n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Il s'est sacrifié pour l'équipe, tu le vois sur son visage, quoi. Allez, ça va faire pénalty, mais ça laissera une chance de plus à l'équipe de... Et il se prend un jaune. Parce que plus de double peine. Attends, tu te fous de ma gueule. Il est dernier défenseur. Là, il est vraiment en plein dans une annihilation d'attaque. Dans attaque par derrière. Je relis en dernier défenseur. Volontairement, à aucun moment il joue la balle. C'est exactement la même chose que si tu fais une main sur la ligne pour empêcher le ballon de rentrer, hein. Pourtant, là, quand c'est main sur la ligne, eh ben si, il faut prendre un rouge parce que c'est contraire à l'esprit du jeu. Donc de flinguer un mec qui va pousser la balle au fond des filets pour éviter qu'il la marque, c'est pas contraire à l'esprit du jeu, du coup.
Non, ce que je comprends.
Non, mais s'il y a des décisions arbitrales, mais totales... Et c'est encore pire, parce qu'on fait appel à la VAR, il y a une consultation, tu te dis, mais putain, ils réfléchissent à 4 ou 5 dessus, ils sont pas fichus de prendre la bonne décision, quoi. Enfin, je pense que 99,9% des gens qui ont vu cette action mettent un rouge au Danois. Ben non, il a pris un jaune. Et après, de toute façon, voilà, tu dis, il faut pas une double peine, mais si tu mets un carton jaune, ça reste quand même une peine, d'autant plus que ce carton-là lui aurait le privé de l'éventuel quart de finale, puisqu'il y en avait deux. Donc, mais bon. Voilà, et tu te dis, là, les Danois, ils vont être imbattables, quoi. Schmeichel qui sort le penalty de Modric, tu te dis, voilà, il va arriver 2 minutes après à la séance de tir au but avec une confiance énorme. Eh ben, il en sort quand même 2, hein.
Manque de bol pour Subasic,
Subasic est très fort aussi.
Non, pour Schmeichel.
Oui, mais en face, il en sort deux. Il en sort deux en séance de tir au but. Manque de bol de l'autre côté. Subasic en sort trois. Hein. Il peut pas dire que les Danois les avaient mal tirés, ces tirs au but. Mais, Subasic, salaud de monégasque.
Ah, mais il était bon, hein. Il était bon.
Oui, enfin, c'est Subasic, quoi. C'est un très très bon gardien, même s'il y a des périodes où il est pas inspiré. Là, voilà. Mais c'est vrai que bon, Kasper Schmeichel, enfin, le fils d'eux, hein, il a fait. T'étais presque triste pour les Danois, alors que finalement ils ont pratiqué un anti-football pendant toute cette Coupe du Monde. Voilà, les Croates, on l'avait dit, à l'issue des poules, ils ont peut-être pratiqué le plus beau jeu. Ils méritaient pas de se faire sortir par une équipe d'anti-jeu total comme le Danemark.
Ça, je suis d'accord. Hein.
C'est.
Mais voilà. Bon, ensuite, Croatie-Russie, normalement, les Croates, ils en mettent 3 aux Russes. Hein.
Ah bah, les Russes, déjà, s'ils arrivent à courir plus d'une mi-temps lors du quart de finale, ça sera beau. Hein.
Ou alors, mais tu veux, là, c'est...
Ah, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les Russes sans les médecins hein, qui leur font les bonnes piqûres. Hein. Ça se voit. Hein.
Mais même sans aller jusque-là, les Russes, ils ont réussi leur mondial chez eux. Un quart de finale, c'est pas ridicule.
Oui. Bah, c'est surtout qu'ils sortaient sur quasiment, je sais plus combien de matchs d'affilée, de défaites d'affilée avant la Coupe du Monde. Donc déjà, s'ils sortaient de la poule, c'était déjà réussi. Et là, ils font non seulement ils sortent de la poule, mais ils sont en quart de finale. Voilà, puis faire sortir par la Croatie, cette Croatie-là, c'est pas honteux. Maintenant, quand tu vois ce huitième de finale de la Croatie, je serais les Russes, je me dirais pourquoi pas. Pourquoi pas, surtout que la Croatie a quand même eu tendance à nous la jouer à façon espagnole face au Danemark. Les Russes vont refaire exactement la même technique que contre les Espagnols, c'est passé contre les Espagnols, pourquoi pas, hein. Tenir le 0-0 jusqu'au tir au but, et puis derrière, le tir au but, pourquoi pas.
Est-ce qu'ils vont arriver à tenir le 0-0?
Bah, ils ont bien tenu le 1 partout, alors que tu voyais que dans prolongation... Mais de l'autre côté, t'as les Espagnols qui accéléraient pas. Mais quand tu vois ce que
les Espagnols, ils continuaient de faire leur jeu de passe, hein. Mais ils attendaient aussi.
Encore une fois, tu vois les Croates, ce qu'ils ont fait, ils ont pas accéléré non plus contre les Danois, alors que, a priori, physiquement, ils avaient plus de jus, qu'ils ont un jeu quand même beaucoup plus direct que le tiki-taka espagnol. Et pourtant, ça a tourné au tiki-taka, ben voilà, on contourne face à une défense type handball. On fait tourner vers la droite, on fait tourner vers la gauche, on refait tourner vers la droite, on refait tourner vers la gauche.
C'est une très bonne comparaison, le handball, effectivement.
Et ben là, les Russes, ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait en huitième, hein, ils vont se bétonner dans leur surface, ils vont pas bouger, et ils vont prier pour que le 0-0 tienne jusqu'au tir au but. J'espère vraiment que les Croates auront les ressources et l'inspiration qu'ils ont pas eu en huitième, et qu'ils arrivent à percer ce coffre-fort pour avoir du jeu, parce que sinon il faudra se tourner vers le Brésil pour avoir du jeu. Ce Brésil qui s'impose 2-0 face aux Mexicains. Ochoa a fait un match énorme, quoi. Il a fait un match énorme. Il a sorti je sais pas combien.
D'accord.
Et bon, il en prend quand même deux. Encore une fois, le...
Mais tu peux pas lui reprocher de lui reprendre, hein.
Non. Mais encore une fois, le Brésil est incapable de marquer sans se jeter à 2 mètres de la ligne du but. Ça m'a rappelé
le profil des... brésiliennes, les mecs ont contourné, balle dans le dos des défenseurs, et on se jette et on voit ce que ça donne. Mm-hmm. Bon.
Ouais, mais...
Je suis pas fan, mais ça marche. Hein.
Voilà, t'as vu les deux.
C'est déjà un jeu un peu plus construit quand même, je
oui.
trouve, que ce que le l'Espagne, que la Russie, que. Enfin...
Non, mais c'est exactement les mêmes buts que contre le Costa Rica, quoi. C'est on se jette et on la pousse au fond parce que on n'arrive pas. Mais après, oui, voilà, il y a de la construction du jeu. Le seul truc c'est pas spectaculaire, quoi. T'as envie le jeu brésilien, c'est le jeu brésilien. T'as envie que ça soit spectaculaire. Et là, c'est une équipe efficace.
Mais je pense que le football champagne de Zébio,
c'est fini.
Ça n'existera plus. Parce que tu veux, les Brésiliens qui dansent la samba et qui font n'importe quoi, mais qui sur un stade s'en sortent, maintenant les Brésiliens ils sont sérieux, parce que je pense que 2014 leur a servi, hein.
Mais même déjà avant 2014, c'est les vainqueurs 2010 avec un jeu très chiant, très défensif. Tu sens
2010, c'est le Brésil? Non, c'est pas le Brésil, 2010, c'est l'Espagne. Hein.
Non, c'est en 2002. 2002,
oui.
je pensais 2002. Mais je pensais quand on avait été nul et éliminé en poule, mais on était nul.
Mais ça marche aussi, oui, ça d'accord.
En 2002 okay. et en 2010, quoi. Non, mais voilà, c'est un Brésil chiant à voir, parce que c'était un Brésil européen, j'ai envie de dire, qui se base sur une assise défensive très, très costaud. Et ils sont très costauds défensivement. Et en plus, ils ont un bon gardien. Même si à chaque fois que j'entends le nom de ce gardien, je pense à la chanson de Jordi, hein. Ah, Alison, c'est ma copine à moi. Bon, tu lui mets cette chanson-là pour le décontenancer, mais ça fonctionnera pas, il comprendra pas. Mais on est en train de se foutre de ta gueule, Allison. Voilà. Mais après, voilà, c'est un Brésil qui reste intéressant à voir, mais qu'est-ce que c'est dommage qu'ils aient Neymar dans leur équipe, quoi.
Monsieur Spaghetti, puis Spaghetti court, puis Spaghetti brun, puis pas Spaghetti du coup.
Oh là là là, plus gros caca sur la tête. Non, mais c'est ce comportement. C'est un joueur tellement génial, tellement doué, balle au pied. Et il en fait des tonnes. T'as l'impression qu'il finira handicapé à vie toutes les 3 minutes sur le terrain, quoi. Il y a des moments, tu te dis, j'aime bien parce qu'il y a un Mexicain qui lui broie la cheville quand même à un moment pendant qu'il est par terre en train de se rouler. Il pose tranquillement son pied sur sa cheville, puis il reste bien comme ça 2-3 secondes appuyé sur la cheville Neymar, et il retire son pied, tut 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 tut, ni fini ni connu.
Non mais c'est ça.
Non mais quand tu le vois se rouler, mais t'as envie. Il arrive à un moment, c'est tellement ridicule. Il y a des fois tu le frôles à peine et le mec il se tombe, il fait 5 mètres en se roulant, mais t'as envie de lui mettre un gros coup de pied par terre pour dire maintenant tu vas te rouler pour quelque chose. De toute façon là, le carton je vais me le prendre puisque je. Bah de toute façon tu vas te le prendre le carton puisque t'as osé toucher Neymar, hein, donc. Voilà, et puis il est là en train de hurler systématiquement, t'as l'impression que dès que quelqu'un l'approche ou lui pique la balle, il doit se prendre un carton, parce que t'as pas le droit, quoi, c'est Neymar, c'est tellement le plus grand joueur du monde. C'est quand même le mec qui engueule, qui a engueulé Thiago Silva, parce que Thiago Silva a été fair play en rendant une balle. C'est quand même le mec qui a fait la gueule sur le but de Firmino, parce que c'est pas lui qui l'a marqué. Bah ça, ça va, la FIFA l'a crédité comme passeur décisif, alors qu'il tire, et c'est un tir dévié par Ochoa, quoi. Et Firmino se jette pour la pousser au fond, sinon elle sortait. Bah le mec faisait la gueule, quoi, parce qu'on l'a privé d'un but. C'est...
Je trouvais que c'était un peu moins le cas sur le match contre le Mexique, quand même.
Bah si, là c'est le deuxième but, tu revois les débuts des images, il fait la gueule, parce que c'est pas lui qui a marqué sur la frappe. Bon, après, il se déride un peu, mais les premières secondes, tous les Brésiliens font... Tu vois, ils lèvent les bras, ils sont heureux et tout, et lui, il fait la gueule. Bah oui, parce que tu l'as pas marqué, hein, mon coco. Du coup, ça va, hein. Je te dis, la FIFA... Je sais pas s'ils ont changé, hein, puisque des fois ils changent 2 jours après, mais en tout cas après le match il était crédité comme passeur décisif alors qu'il fait une frappe, il fait pas une passe, donc il devrait pas être crédité comme passeur décisif. Mais bon,
je te rappelle que Paul Pogba était buteur 2 jours.
Oui, voilà. Depuis ça a peut-être changé, hein, mais ça a peut-être changé, donc j'ai pas m'avancer, la FIFA a peut-être rectifié le truc, mais j'étais en train de vraiment pour lui faire plaisir, quoi. Il faut soigner les stats de Monsieur Neymar.
Mais surtout que maintenant que tu peux plus soigner celle de Messi et de Ronaldo. Faut bien soigner celle de quelqu'un.
Ah ouais, non mais voilà, du coup tout le monde y croyait, hein. À l'espoir que on ait la 3e équipe consécutive qui sorte, ça aurait été tellement bon. Ça aurait été tellement bon. Ah bah tiens, Neymar a été désigné match. Ce qui est normal, ça a été probablement le meilleur joueur sur le terrain, hein, contre le Mexique. Mais encore une fois, ouais, mais s'il en faisait pas autre, quoi. C'est ça qui est dommage. Et donc, ils affronteront quelle équipe ? La Belgique ou le Japon ? Ben, c'est le Japon, hein, mon coco. Si, si, c'est le Japon. Putain, mais le Japon, il serait quand même quart de finaliste s'ils avaient eu un vrai gardien et pas l'ancien gardien du FC Metz actuellement au chômage. Oui, le Japon a joué quand même son 8e de finale avec un gardien au chômage. Car Kawashima n'a actuellement pas de club. Putain, mais c'est hallucinant. Déjà, en 3e match de poule, il a sorti probablement l'arrêt de la Coupe du Monde et il t'a encore fait un double arrêt, mais hallucinant. Et de l'autre côté, il se prend des buts de casquette tellement il est mal placé.
C'est ça,
Mais c'est exactement ça qu'on a subi pendant 2 ans à Metz, quoi. Le mec, ben voilà, il sort des pénaltys de Neymar et il se prend un but qui lui glisse entre les mains, machin, parce qu'il, enfin, le but de Vertonghen qui permet à la Belgique de reprendre espoir, putain, mais c'est une tête lobée de 30 mètres, quoi, c'est tellement improbable. Et je me demande si c'était pas lui déjà dans les buts il y a 2 ans quand c'était Matuidi qui avait,
là, l'ouvert. Il a la grosse tête, là?
Ouais.
Ça me rappelle un peu, je sais pas si tu te souviens.
Mais se tenait le 2 partout.
Premier souvenir de Coupe du Monde. C'est la tête de Bergkamp, demi, Pays-Bas-Brésil en 98.
Sauf que Bergkamp l'avait fait exprès.
Bah, peut-être. Parce que le coup de tête de l'entrée de la surface de mémoire, il était magnifique.
Oui, oui, mais il était volontaire. Là, c'était loin d'être volontaire. Hein. Donc, alors, là, du coup, je vais revoir les équipes, les compositions d'équipes, pour savoir si c'est... Eh oui! C'était lui qui s'est pris la tête de l'obé improbable de Matuidi depuis le bord de la surface dans le match MES-PSG. Je crois que Matuidi a dû mettre un but de la tête de toute sa carrière, quoi. C'est un truc tellement impossible. Mais voilà, le nombre de fois où les défenseurs japonais se jettent pour dévier le tir parce qu'ils savent que si c'est cadré, il y a quand même 80% de chances qu'elle finisse au fond des filets, quoi. C'est voilà, ils auraient eu un vrai gardien, ils passaient. Ils menaient 2-0, ils ont pas su boucler le match, quoi. Ils ont relancé les Belges qui ont vraiment été pas poussifs, mais qui se sont fait avoir par les. Il y avait, tu regardes la première mi-temps, tu dis les Belges ils vont les exploser en deuxième, ils ont été mauvais sur la première, tu sais. Le Japon était replié comme s'il y avait aucun espoir et tout. Ils ont attaqué la deuxième mi-temps, ils ont planté deux contres de folie et ils menaient le match, quoi. Je suis sûr que c'est la technique du sélectionneur japonais de se dire on va leur faire croire qu'on est du lâcher et en deuxième mi-temps on va les taper. Bah ça a failli fonctionner, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et a fallu attendre le bout du bout, c'est dommage. Ce troisième but belge qui arrive à la 94e minute et qui donc élimine les Japonais sans même avoir recours aux prolongations.
Et en même temps, heureusement. Mais
bah après, voilà, c'est j'ai envie de dire, ils ont été tellement stupides les Japonais parce qu'ils ont joué pour aller marquer ce troisième but. Ils ont un coup franc, ils frappent machin derrière, ils ont un corner. C'est au lieu de le jouer tranquille à deux et attendre au point de... Ils l'ont joué, ils l'ont tiré. Ils ont essayé d'aller marquer ce troisième but pour éviter les prolongations. Il est mal tiré, le corner, Courtois la récupère, ça part en contre et ils se font prendre sur le contre à 3 contre 2 en défense, quoi. J'ai respect. Franchement, respect, ils ont pas fermé le jeu, ils ont essayé d'aller chercher la victoire et ne pas aller en prolongation. C'est totalement stupide, mais respect. Voilà.
Ah bah, force et honneur, hein.
Voilà. Les Belges ont eu très 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 chaud. Hein.
Est-ce que du coup tu vois les Belges arrêter le Brésil ?
J'ai envie de dire c'est le Brésil qui s'arrêtera tout seul, quoi. S'il passe à travers ou s'il tombe sur les Suédois, ça sera peut-être la demi-finale.
Parce que là pour le moment je vois pas les Belges arrêter le Brésil en quart.
Ah bah c'est sûr, si c'est la Belgique contre le Japon, non. Et puis je pense que voilà, les Belges ils devaient être dans l'idée, c'est une formalité le Japon. Tout le monde parlait déjà du Belgique-Brésil qui se profilait en quart de finale. Alors qu'ils n'ont pas eu de vraie équipe jusqu'alors.
Ouais.
C'est vrai qu'ils ont des gros scores, ils ont marqué beaucoup de buts. Mais voilà, Panama, une Tunisie aux fraises et l'équipe C ou B ou C de l'Angleterre, quoi. C'est pas non plus qui avait pas envie de jouer en plus. Donc bon, c'est vrai que c'est finalement les Japonais, ça a été la première vraie opposition qu'ils ont eue et ils ont galéré. Et bah le Brésil c'est beaucoup beaucoup plus fort défensivement, c'est beaucoup beaucoup plus fort offensivement, donc ouais, cette Belgique là je la vois pas taper le Brésil. Maintenant sur un match des Belges,
ou le tenir en échec éventuellement et craquer en prolongation,
voilà, craquer nerveusement parce que le spectre du oh non on va quand même pas craquer, on va pas perdre contre des Belges, tu sens qu'il y a une pression énorme, ils ont foiré leur Coupe du Monde chez eux alors qu'ils sont quand même demi-finalistes, hein. Tu sens qu'ils ont pas le droit de se rater sur cette Coupe du Monde. Et Neymar, ben voilà, c'est sa seule chance d'être avec les deux autres éliminés en huitième. C'est s'il remporte la Coupe du Monde, c'est bon, hein, il a le Ballon d'Or. Hein, donc s'il veut le Ballon d'Or, il a. Et donc ouais, non, je vois pas ces Brésiliens passer.
Il est loin le temps où on donnait le Ballon d'Or à Dinosov.
Ben il était loin le temps où on le donnait aux joueurs qui étaient méritants sur l'ensemble de la saison et pas un joueur au meilleur stade de l'équipe gagnante de la compétition de la saison, quoi. T'as l'impression aujourd'hui, ben voilà, Coupe du Monde, donc c'est forcément un champion du monde. Année d'Euro, c'est forcément un champion européen, et les autres années, bah, c'est forcément quelqu'un de l'équipe gagnante de la Ligue des Champions, donc bon, c'est un peu dommage. Et qui a les meilleures stats, donc voilà, je les vois pas prendre à la légère les Belges, j'ai bien peur que les Belges se fassent défoncer. Et donc les Brésiliens, ou peut-être les Belges, hein, on sait jamais, affrontons les vainqueurs du quart de finale, entre la Suède qui a sorti la Suisse et l'Angleterre qui a sorti la Colombie.
Et c'était chiant.
Ah bah le Suède-Suisse 1-0, but de Forsberg, c'est je crois à peu près la seule occasion cadrée véritable du match. Et c'est pas une surprise, hein. Il dit, ah, bah, ça se trouve, c'est 3, hein, mais je t'avais dit, probablement, il y aurait quasi ces deux équipes fermées, ces deux équipes qui dont tout leur jeu repose sur un bloc ultra compact et des contre-attaques. Donc, forcément, tu vous avez deux blocs qui allaient se regarder avec 30 mètres de vide entre les deux. Ben, bon, je suis méchant, hein. Il y a quand même 12 tirs suédois, dont 6 cadrés. 18 tirs, suisses, dont 5 cadrés. On dirait des stats de Ligue 1, quoi.
Ouais, c'est ça.
Bah, d'un autre côté, quand tu regardes la composition d'équipe, c'est des joueurs de Ligue 1. Et encore, voilà, hein, c'est faussement trompeur, parce que tu te dis, ah, bah, ça fait 11 tirs cadrés, ça a dû être un beau match. Sur les 11 tirs cadrés, il y a dû avoir 8 passes au gardien, en fait, hein. Enfin, de tirs tellement ratés que ça tourne en passe au gardien. Donc, voilà, voilà, voilà. Hein, bon, ça va. On a quand même eu des passes. Hein. 271 passes pour les Suédois. 599 pour les Suisses. Qu'est-ce que tu veux faire?
Rien.
Bah, tu l'as quand même regardé ce match. Et tu te dis finalement. Finalement, le Croatie-Danemark était pas si chiant que ça, en fait. Hein.
Ouais, c'est cool.
Non, c'est vrai qu'il y a eu, bah, disons, il y a eu plus d'ambition offensive, ça jouait, quand il y avait des ambitions offensives d'un côté ou de l'autre, ça allait plus vite, c'était un peu plus direct, un peu plus vertical, donc bon, mais, c'est vraiment pas folichon, c'est un poil moins chiant que le Croatie-Danemark, mais vraiment un tout petit poil, hein, un poil de bébé.
Un poil de fourmi.
Un poil de bébé fourmi.
Oui, d'accord.
Voilà. Mais heureusement, deux heures après cette qualification suédoise, un vrai match, quoi, avec deux belles équipes offensives et tout, Colombie-Angleterre. voilà. Mais...
Allez, je te laisse le dire ce coup-ci.
C'était ennuyant.
Oui, on était pas vraiment de chiant.
Bah, c'est-à-dire qu'on en arrivait à un moment, j'étais en train de me dire, je pense qu'on peut jouer 8 heures d'affilée, que les Colombiens n'auront toujours pas cadré un tir. Ils ont essayé, mais ils foutaient tout au-dessus, tout à côté, quoi. Il a fallu attendre que Mina arrive pour marquer but, hein, le meilleur défenseur qui va finir meilleur buteur colombien de la compétition, quoi. C'est... Pourtant, enfin, voilà, en comparaison des Suédois et des Suisses, ben, techniquement, il y a 14 tirs, 4 cadrés, 16 tirs anglais, 2 cadrés.
Et alors là, comme aurait dit Antoine, Atoll, les opticiens.
Voilà, hein, là tu te dis, c'est encore un bon match de Ligue 1, hein, quoi. De deuxième partie de tableau de Ligue 1 au niveau statistique.
C'est ça.
Mais tu vois, au niveau passe...
Ah non, première, il y a quand même 16 tirs. Deuxième partie de tableau, il n'y a pas plus de 10 tirs dans un match.
Mais voilà, après, au niveau passe, bah, c'est 516 pour les Colombiens, 571 pour les Anglais. Donc là, tu vois que c'est quand même un match qui était, entre guillemets, indécis. Il y avait des volontés des deux côtés, mais sauf dès que tu retires Rames Rodriguez en Colombie, à chaque fois qu'ils n'ont pas eu, ils n'ont pas pu jouer avec Rames Rodriguez, ils n'ont pas été bons, quoi. Il manquait d'aspiration. Falcao semblait tout seul sur son atoll des opticiens, hein, là, tellement il était déconnecté des autres joueurs. Enfin, il manquait Rames pour faire ce liant entre le milieu et l'attaque, quoi.
Parce que moi, j'ai trouvé que Falcao, il essayait de l'amener vers le but, hein, la Colombie.
Ah oui, oui, Falcao faisait son job d'attaquant, mais c'est ce que je te dis, il était tout seul. T'avais l'impression qu'il était seul au monde, quoi. Tu te dis, mais... Je sais pas, enfin, il manquait ce liant que quelqu'un, Rames Rodriguez, quoi. Et les Anglais, ben, les Anglais, en dehors de Kane, hein, c'est quand même pas folichon, hein, malgré les noms...
Oui, ce que ça dit, Kane est survivant.
Oui, voilà. Et puis bon, il y a quand même certains, il y a quand même un certain joueur qui me fait bien trépier aussi, mais bon, à part ça, en Angleterre, voilà. Non, parce que c'est bien, avec les Anglais, leur nom de famille, tu peux faire plein de jeux de mots, quoi, tu te dis. Faire, hein, les Colombiens, ils vont forcément marquer à but, parce que, ils ont payé en tour Stone, avec leur blanche, quoi. Tu vois, c'est...
On dirait des blagues de l'équipe du soir, là, mais...
Non, mais voilà, je veux dire, c'est très mauvais, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est... Mes blagues ne sentent pas la Danny Rose. J'aime bien ton...
on est to infinity and beyond, même, à ce niveau-là.
Et puis tu savais que Kai Walker, il était macroniste, toi, non?
Il préfère pas Luke?
Non.
Luke Skywalker? Comment je t'ai fait une contre-blague?
Non, mais t'es bien réussi en plus. Il fallait quand même arriver au huitième match, ce round 16.
Huitième.
Voilà. Pour que tu arrives à en sortir une bonne, c'est bien. Comme t'es comme Harry, tu peux le faire. Ah, mais voilà, c'est une équipe d'Angleterre qui est pas formidable, c'est une équipe colombienne qui, dès qu'il lui manque un joueur, c'est pas formidable. J'ai envie de dire, les deux méritaient de passer, hein. C'est surtout que tu te dis, ouais, on peut pas refaire Colombie-Angleterre en quart plutôt que Colombie-Suède ou Angleterre-Suède, j'étais en train de me
C'est
dire
ça.
pendant le match. Parce que c'était pas terrible, mais au moins il y avait de l'envie, il y avait de l'engagement, ça
Mais
allait
attends, et
d'un camp à
heureusement,
l'autre.
Colombie, enfin, Suède, Angleterre, c'est le match qui sera pas diffusé sur TF1.
Bah parce que c'est le match de 16h, hein. S'il était à 20h, il aurait été diffusé, hein. C'est con, TF1 était capable de zapper le Brésil-Belgique si c'était celui-là à 16h. Ils ont bien zappé le Brésil en 8e parce qu'il était diffusé à 16h le match, donc voilà. Donc on se retrouve vendredi avec Uruguay-France et
Et tu m'as pas
Brésil-Belgique.
dit qui tu voyais entre le Angleterre et la Suède?
Mais avec les autres non plus, hein. Ah si, les autres on les a fait, oui, effectivement. Et donc Suède-Angleterre, j'ai envie de dire, je sais pas
Je
du
pense que ça va
tout.
faire un partout, hein.
Non, je pense. Non, je pense que les Suédois sont capables, parce qu'ils n'ont pas Zlatan dans leur équipe, donc ils sont capables d'aller chercher la demi. Hein. C'est vraiment une demi, c'est à quart de finale où ils ont leur chance. Hein, donc cette équipe d'Angleterre, ils ont vraiment leur chance. Donc on aura un petit France-Brésil en demi et un petit Russie-Suède de l'autre côté. Waouh! Par rapport à ce que j'avais dit, hein, parce que si les Russes tiennent, hein, contre les Croates, ils peuvent le faire. Hein. Tu dis, ils ont plus rien à perdre, pour eux, leur Coupe du Monde est réussie. Ils ont le soutien du public. Donc je pense qu'ils vont se transcender contre les Croates. Ils peuvent le faire, ils peuvent sortir les Croates d'une façon pitoyable, encore une fois, bloqués dans leur surface, donc j'y crois. Petit Russie-Suède en demi-finale de Coupe du Monde, ça serait totalement hallucinant, quoi. Mais bon, déjà que la France arrive à passer l'Uruguay, ça serait déjà bien. Après, on verra bien ce qui nous sera proposé par la suite. T'imagines l'Uruguay qui sort la France, puis qui tape le Brésil ou la Belgique, et qui se retrouve contre la Suède en finale.
Non, parle pas de malheur, on veut du jeu.
Là, t'as Gianni qui tape du poing sur la table. Non! Vous prenez de force Zlatan, vous le mettez titulaire, pitié, que
C'est
j'ai au moins
ça.
un joueur qui soit connu dans le reste du monde.
Non, mais bon, c'est. En fait,
Mais
je
c'est
lisais
pas
un peu l'article de
impossible.
l'équipe. Vas-y.
C'est pas impossible quand tu vois le niveau des soi-disant favoris et que tu vois comment les petites équipes s'arrachent bien. Franchement, je vois pas en quoi c'est inconcevable un Uruguay-Suède en finale. Aujourd'hui,
Et bah, tu vois, c'est, je suis en train, justement, c'est ce sur quoi j'allais venir. Je suis en train de, enfin, j'ai lu tout à l'heure, pardon, je suis plus en train de le lire, mais je l'ai quand même sous les yeux. J'ai lu l'article de l'équipe tout à l'heure, là, sur, qu'ils ont sorti aujourd'hui, en se demandant si la Coupe du Monde était vraiment surprenante, cette année. En se demandant, en fait, s'il y avait davantage de surprises que sur le Mondial depuis 98, qui est la même formule appliquée. Et en fait, ils disaient que sur les favoris sortis au premier tour, non, c'est pas le cas. Parce que sur les favoris sortis au premier tour, il y en avait quatre,
Bah ouais, la plupart du temps t'as le champion en titre qui sort, donc dès les poules.
Et t'avais l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et le Portugal qui s'étaient fait dégager en poule, il y a 4 ans. Par contre, cette année, il y a vraiment des huitièmes à surprise. Les favoris qui sortent avant les quarts de finale, t'en as quatre qui ont dégagé, dont trois sur,
Sur tir au but. Je crois que c'est la
ouais,
première fois qu'il y a trois tirs au but, trois séances de tir au but en huitième, si je me souviens bien de ce qui avait été dit lors des commentaires.
par contre, en 2002, il y avait quatre équipes surprises qui étaient présentes en quart de finale. Pas mal, hein.
Après, au niveau du jeu, quoi, c'est par rapport au niveau du jeu. Le niveau du jeu est faible. Tu vois que les joueurs évoluant dans les grands clubs arrivent carbonisés à la Coupe du Monde. Ça a été la même chose à l'Euro. Donc, ce qui donne des chances aux petits pays. Et en plus, bah, t'as vu à l'Euro qu'un pays comme l'Islande, en faisant le blocus derrière et en jouant le contre, ils ont été quart de finaliste. Le Pays de Galles, c'était pas mieux. Ils ont fait demi-finaliste de l'Euro. Bah, tu sens que ça a motivé les petites équipes, entre guillemets, comme le Japon, comme bah, la Suède et la
Ouais, mais
Suisse.
ça c'est valable sur un euro à 24, on le 24 équipes sur 50 en Europe.
Ben là, finalement, la Coupe du Monde, t'as 48 équipes, non, t'as combien, 32 équipes, oui, ça va pas encore.
Ben, c'est ça, t'as 32
ouais,
équipes.
Mais ça empêche pas que on est sur un jeu où t'as beaucoup d'équipes qui bétonnent derrière et qui essaient de jouer le contre avec plus ou moins de réussite, et ça te fait des matchs chiants comme la mort, comme le Suède-Suisse qu'on vient d'avoir, ou le Croatie-Danemark, parce que les Danois refusent de sortir dès qu'ils nous avaient déjà emmerdé en poule avec le Danemark-France. Voilà, c'est des équipes qui ont zéro ambition dans le jeu, et malheureusement, ben, elles se retrouvent à aller assez loin. Donc, j'ai peur que cet effet de mode revienne à nouveau en 2020 et 2022. C'est pas une Coupe du Monde ultra spectaculaire, quoi. Voilà, je me souviens en 2014 de l'Allemagne-Algérie, et ça, je m'en souviendrai très longtemps, parce que ça a été un match de feu, de folie pure. Le match de la Colombie aussi, il avait été magnifique. Là, je suis pas persuadé que dans 4 ans, je sois capable de me souvenir de quoi que ce soit, à part peut-être le sprint improbable de Mbappé. Hein. Mais là, sur ces huitièmes, je m'en souviendrai pas d'un seul. Hein. Ça, c'est... C'est... Non, c'est... Après, c'est quand même mieux que... Toi, tu les as pas connus, mais moi, je les ai connus, hein, les Coupes du Monde 90 et 94. Oh, putain. Oh, putain, c'était à s'ouvrir les veines. Hein. Oh, la vache. La 2002, elle était quand même... 2002, t'avais à côté sympa avec les Japonais et les Coréens qui arrivaient à faire leur
et
beau
les...
parcours.
Et les US qui avaient rien à foutre là.
Ouais, mais tu vois, il y avait des petites équipes qui faisaient un beau parcours et tout. Mais globalement, c'était pas top top. Et puis bon, les horaires, ils étaient pas géniaux non plus pour suivre. Mais... C'est dommage. Après une Coupe du Monde qui était quand même tournée vers l'offensive en 2014, qu'on se retrouve à nouveau avec ces blocus parce que c'est des petites équipes qui ont pas de moyens de faire mieux quoi que des blocus défensifs. C'est chiant, malheureusement. Voilà. Et là, quand tu vois les quarts de finale, tu sais que le Russie-Croatie et le Suède-Angleterre, ça risque d'être très très chiant à voir. Le France-Uruguay, ça je pense, ça va être une attaque défense pendant 90 minutes. C'est Brésil-Belgique qui sera a priori ouvert, avec deux équipes qui vont chercher à attaquer. Mais à part ça, ouais, c'est pas enthousiasmant maintenant. Peut-être, espérons qu'à partir des quarts de finale, ça devienne que les petites équipes se disent ça y est, notre Coupe du Monde est réussie, on se lâche, et que les grandes soient enfin au niveau attendu.
Ça y est, notre Coupe du Monde n'est pas réussie, mais il faut qu'on se lâche.
Non, mais voilà, qu'ils soient enfin au niveau attendu. C'est-à-dire que ben tu t'es payé une grosse préparation foncière, tu t'es tapé une phase de groupe à chier de la France.
Préparation foncière.
Oui, la France, elle a fait une préparation, enfin du foncier quoi, du physique, voilà. Avec une montée en puissance.
Préparation foncier, c'est l'immobilier.
Non, mais oui, non, c'est aussi le, ben, c'est ce qu'ils font en ce moment là, les clubs de Ligue 1 pour la saison quoi. C'est le travail athlétique de conditions. Et donc forcément, l'idée c'était qu'en phase de poule, tu sois toujours dans la digestion de ce lourd travail physique et athlétique pour que tu sois au mieux de ta forme quand t'arrives les huitièmes quart demi quoi.
Ouais.
Et vu ce qu'ils ont proposé en huitième, la France c'était intéressant. Donc tu te dis ouais, ça y est, elle monte en puissance. Les Brésiliens ils faiblissent pas, donc tu peux te dire c'est vraiment dommage que ces deux équipes se rencontrent en huitième quoi.
Ouais, mais bon.
En huitième, en demi. En round of four.
C'est ça.
Voilà. Prions.
Dans le dernier carré, comme on dit en France.
Prions pour que, voilà, que tout le monde se lâche et qu'il nous offre 4 quarts de finale de folie. Qu'on puisse se sentir rassasié après avoir dégusté ces 4 quarts.
Je la voyais pas venir à des kilomètres.
Du tout. Et encore, tu as évité, quand on a parlé du Japon, que ils avaient quand même bien joué parce qu'ils avaient délaissé l'attaque par l'axe pour se tourner vers les alliés.
Ouais, c'est pas mal non plus.
Mais je voulais déjà la faire à la phase de poule et j'y ai pas pensé. Et là, je me suis dit non, je vais pas oser la faire quand même. Ça, c'est une blague historique et tout, traumatisante et compagnie. Et en plus, c'est vrai qu'ils ont joué beaucoup par les ailes. Ils se tournent beaucoup plus vers les alliés que... Voilà, c'est ça, allié, voilà, tu as jeu de mots et tout.
Ah, c'est subtilité, amour.
Nez rouge. Encule un mouton japonais, quoi.
On va avoir des problèmes un jour. Hein.
Ouais, mais pas maintenant, puisque l'émission se termine. Puis voilà, c'est de la référence culturelle, monsieur. D'une émission qui s'est arrêtée après 30 ans de bons et loyaux services. Bolloré doit être tellement heureux d'avoir réussi à tuer les guignols de la faux. Mais bon. Voilà. Allez, on va vous laisser aller fêter les 40 ans de diffusion de Goldorak en France et 40 ans de Récréa 2. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire en attendant les quarts de finale.
C'est ça.
Et donc...
Ça va être les 40 ans des quarts de finale. Tellement ça va être long.
Et ben merci Yann d'être venu faire
merci Nico,
une blague drôle au 8e de finale.
Et des blagues pas drôles le reste du temps.
Ah ben c'est notre marque de fabrique. Hein. Non, il n'y a pas de jeu de mots, je cherche pas.
Non, je cherchais pas.
Si on n'a pas, on est comme des équipes de foot. Hein. Ils ont un ratio tir cadré à chier. Nous, on a un ratio blague réussie à chier. Tu vois, on reste dans la thématique. Tu vois, mais... On est les fouteux de la blague. On n'est pas foutu d'en faire une bonne. Allez, au revoir Yann, au revoir les ciao, auditeurs, ciao. Au revoir les auditrices, au revoir tout le monde. Bye bye, tchou tchou.
Bisous.
XOXO.